Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Pauline. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci à toi, Priscilla.
Donc, tu as créé l'Atelier Verdé avec ton associé Clément.
C'est ça.
Je trouve ton idée assez folle, originale et audacieuse. C'est pour ça que je t'ai invité pour cet épisode. L'histoire, c'est qu'il y a 9 mois, tu as eu l'idée de faire des sacs de luxe qui sont fabriqués à partir de chambres à air de tracteurs recyclés. On peut dire quoi, que c'est la matière première ou la matière phare de ton sac?
C'est ça. En fait, plus précisément, la chambre à air de tracteur, c'est un matériau que j'utilise depuis 5 ans. Et il y a 9 mois, c'est pas l'idée qui est venue, c'est la rencontre avec Clément qui nous a fait créer Atelier Verdé. Au tout départ, en fait, on était parti sur créer une marque pour entrepreneurs et créer des t-shirts made in France. Donc, ce qu'on a fait, et en fait, c'est le confinement qui a décidé, en fait, où je me suis dit, mais non, mais en fait, il faut que je fasse ce que je fais depuis 5 ans, il faut que je parle de cette chambre à air que j'adore, et si je le fais pas maintenant, il y aura quelqu'un d'autre qui le fera à ma place. Donc voilà un peu comment c'est, plus au niveau de l'enchaînement des choses, comment ça s'est passé.
Quand j'ai vu ta marque, je t'ai déjà raconté ça, mais au début, je comprenais que tu vendais des t-shirts, et après, je comprenais pas trop, et je me suis dit que les t-shirts, c'est tellement simple, commun, moi, j'en vois partout, peut-être que c'est... À force d'en voir, tu les vois tout le temps, tu vois qu'il n'y a que ça. J'ai l'impression qu'il n'y a que des coachings et des t-shirts. Donc, je trouve ça excellent que tu t'es remise en question et que le confinement t'a permis de faire quelque chose de tellement mieux. Enfin, je me dis même pour la relation presse, etc. Les gens, vu que c'est original, ils ont envie en fait de suivre ton aventure et de comprendre ce que tu fais. Que si tu vends des t-shirts, ben, t'es là comme je ne sais pas combien de milliers de personnes même dans ta région qui doivent faire des t-shirts, tu vois.
Et ça aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que bah, ça allait être un marché qui était très compliqué, quelque chose où il y a beaucoup, beaucoup de démarches. Donc même si notre t-shirt, on parle plus trop dessus, mais on a quand même été au bout de la démarche, il est français, il est tricoté en France, après il est assemblé avec des personnes en situation de handicap, il n'y avait pas assez de valeur, on va dire. J'ai voulu aller plus loin et proposer ce que je fais depuis 5 ans, hein, recycler la chambre à air de tracteur, et c'est comme ça que j'ai commencé le premier modèle. Parce que j'avais déjà fait des modèles différents avant, il y a 2-3 ans en arrière, mais c'est vrai que je pense qu'on a tous cette peur, je pense, en tant qu'entrepreneur aussi, enfin, je n'étais pas entrepreneur à l'époque d'ailleurs, mais tous se dire, bah, ça ne va pas marcher, ou je suis trop jeune, ou c'est trop tôt, et puis bah, quand il y a eu le confinement, je me suis dit que c'était le moment de le faire. Je venais de quitter mon poste d'assistante styliste pour me lancer à fond dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a dit... Non, c'est pas simplement des t-shirts Atelier Verdé, c'est recycler la chambre à air de tracteur, et au-delà de ça, je pense que c'est vraiment s'inclure dans les acteurs de demain au niveau de la mode engagée.
Parce que je me dis, les t-shirts, au niveau de la créativité, tu te sentais pas limitée ?
Si, beaucoup, et en fait, il faut savoir que j'aime beaucoup la matière. La matière, c'est vraiment ça qui me permet de créer, et en fait, dans les t-shirts, bah, à part plus faire du graphisme, etc., d'ailleurs, j'ai pas travaillé avec une amie, que je peux citer, et Nora, qui a fait le graphisme sur le t-shirt. Mais en fait, voilà, on est très vite limité, et puis en plus, je me dis que j'avais envie de faire autre chose. Après, quand on a construit Atelier Verdé, l'idée, c'était de créer une marque au global, c'est toujours l'idée. Après, on veut vraiment axer sur la maro pour le moment.
Et comment tu t'es dit, déjà, je vais prendre des pneus de tracteur, enfin des chambres à air de tracteur, et comment tu t'es dit aussi, je passe des t-shirts à des sacs, ça n'a rien à voir.
Bah, ça a été compliqué cette transition parce que je pense que oui et non, parce qu'au final on est personne et on est encore personne d'ailleurs, hein. Je ne dis pas qu'on est quelque chose, j'espère qu'on sera quelqu'un un jour, mais je me suis dit on est personne, justement je pense que les gens ils aiment bien avoir de la transparence et ils aiment bien savoir comment les projets évoluent, et je pense que c'est une très bonne évolution, hein, même si ça a été compliqué, parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup des t-shirts, et que moi je me suis, même sur ma campagne, c'était pas encore, on a parlé des t-shirts, on les a mis en vente, ils sont toujours en vente d'ailleurs, mais comment je vois les choses maintenant au niveau de la vision, c'est vraiment, bah voilà, on parle pas forcément des t-shirts, Atelier Verdé c'est une marque de maro, et à côté de ça, on a des pièces principalement en maille, qui sont aussi proposées sur le site web en petite quantité, et l'idée c'est vraiment d'aller à l'inverse, et la pièce de maroquinerie et accompagner la pièce de maro par des petites éditions limitées en maille. C'est vraiment comme ça que je le conçois sur du long terme, avoir le vêtement qui soit plus là pour sublimer la maroquinerie, alors que d'habitude c'est l'inverse, c'est le vêtement qui est sublimé par de l'accessoire.
C'est sûr qu'après, si tu vends les deux choses en même temps, les clients ils comprennent pas, surtout au début d'une marque.
C'est ça. Bah, là, on m'a pas trop fait la réflexion. Après, je pense que vu que dans notre communication, on n'axe que sur la maro, bah, c'est juste une surprise de plus sur le site que de voir qu'il y a un peu de vêtements, quoi.
Et là, donc, il y a un seul sac.
Il y a un seul sac et il y a des petites pochettes indispensables de Louise avec des chutes de cuir recyclées. Et puis, on a aussi une pochette d'ordinateur que je mets moins en avant parce qu'il faut savoir aussi que pour l'instant, je travaille avec des artisans pour tout ce qui est petites pochettes, etc. Et pour les sacs, par contre, je travaille avec un atelier nantais qui est classé patrimoine vivant, qui fait du coup tous les sacs Paulette. Et puis, bah, si on voit que les sacs Paulette cartonnent, on essaiera de lancer un nouveau sac cette année.
Et t'as mis combien de temps pour créer Paulette ?
Paulette, j'ai commencé pendant le confinement. Il y a eu des temps morts parce qu'il faut savoir aussi que c'est compliqué d'évaluer un temps parce que j'étais aussi en création de société. Donc, il y avait toutes les démarches en parallèle. Il y a eu le confinement, donc forcément, ça a retardé des choses. On voulait lancer beaucoup plus tôt que ça au départ. Hein. Mais bon, on s'est dit on va lancer en septembre. Et puis au final, on a lancé fin septembre. Et on a fait la campagne sur un mois. Et là, ça fait un mois et demi qu'on est lancé. Ça avance petit à petit. J'ai l'impression qu'il s'est passé des montagnes entre-temps, mais puis oui, ça avance.
Alors, comment t'es venue l'idée d'utiliser la chambre à air de tracteur pour matière première ?
Alors, il faut savoir que bah, déjà, mon père est agriculteur. En fait, quand j'étais en art appliqué, j'avais 16 ans à cette époque-là, on avait des profs qui étaient très... qui étaient beaucoup à vouloir nous apporter énormément au niveau artistique. Ils cherchaient toujours à ce qu'on aille plus loin. Et je pense que déjà, rien qu'à cette époque, ils nous poussaient presque à des niveaux BTS ou des niveaux de recherche qui étaient assez poussés. Et il y avait un sujet qui était de trouver une nouvelle matière et d'en faire complètement autre chose. Je pense que toute ma créativité, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ressortent de ces années-là. Et du coup, à cette époque, donc moi, j'aimais beaucoup le crochet. J'avais mes tantes et tout qui m'avaient appris ça quand j'étais petite. Donc en fait, je faisais beaucoup de crochets dans mes projets artistiques et j'avais recyclé de la ficelle de rumballeur. Donc j'ai commencé par de la ficelle de rumballeur, donc la petite ficelle bleue qui entoure les bottes de paille pour les personnes qui ne voient pas ce que c'est. Et j'ai commencé à la crocheter, je l'ai fait brûler au four. Et puis après, j'ai trouvé en fait de la chambre à air dans l'atelier agricole. Et je me suis dit, mais si je la coupais en fil et je tricotais cette matière. Donc j'ai commencé comme ça, j'en ai fait une grosse masse, toute tricotée. Je suis sûre que j'ai passé des heures dessus. Et puis après, au fur et à mesure, pendant mes études, en fait, j'ai commencé à la graver au laser. J'ai rencontré des personnes en maroquinerie dans mon BTS, donc j'ai commencé à faire des prototypes en maro. Et du coup, pour ma collection de deuxième année, bah, j'avais fait une collection avec une veste où il y avait un morceau de chambre à air d'ailleurs dans le dos, et puis des sacs. Et voilà, d'où l'idée est venue. Et puis, puis après, je suis partie en Corée du Sud, j'ai eu mon poste, et puis, bah, et puis là, je lance la marque. Voilà, un peu la chronologie.
Oui, c'est pas venu par hasard, parce que je me dis comment... arriver à se dire je vais prendre ça, bon, de toute façon quand on est dans le stylisme on peut être très très créatif et voir je pense toutes les opportunités possibles pour faire des choses qui sortent du lot quoi.
C'est ça, bah, c'est un peu ça, on m'a dès mon bac en fait on m'a appris à toujours avoir un regard un peu trouver une solution au problème. Ça c'était vraiment les gros axes parce qu'on travaillait, je faisais pas que de la mode en fait, je faisais aussi de l'archi, du graphisme, un peu de tout quand j'étais en bac, et c'est après que j'ai choisi la mode. Donc c'est vrai qu'on avait déjà cette démarche un peu entrepreneur de trouver des solutions aux problèmes existants à travers le design.
Et là, récemment, tu as fait une campagne Ulule. Tu l'as terminée il y a quelques jours.
Il y a 20 ans, il y a déjà 3 semaines. Ça passe vite, déjà.
Et alors, qu'est-ce que tu en as tiré comme bilan ? Est-ce que ça a apporté ce que tu souhaitais en termes d'argent, en termes de notoriété ?
Je pense que oui, c'est déjà super. Après, je pense qu'avec notre projet, on me l'a dit, on pourrait aller plus loin parce qu'on a fait, comme je te disais, on n'a fait aucune publicité, on n'a fait que de l'organique, on n'a pas encore mis en place tout ce qui est Facebook Ads, etc. Et du coup, je pense que c'était un super début. On a lancé très vite parce que bah, fallait lancer et qu'à un moment de temps, ça faisait déjà trop de temps que j'étais sur ce projet. J'avais envie de lancer. Je pense que j'avais envie de foncer. Donc on a lancé 2 jours avant. On n'avait même pas fini. Hein. 2 jours avant, j'étais encore en train de faire tout. Et on a été très surpris parce que la vidéo, elle a vraiment pris très vite. On a fait 10 000 vues, je crois. Ou plus, non, là, ouais, je crois qu'on a dû faire 10 000 vues sur Facebook. Et puis pareil, plein de messages de remerciements. Sur Insta, on a pris beaucoup d'abonnés. Là, en moi aussi, je crois qu'on est passé de 600 abonnés sur le compte à... Là, actuellement, on doit être à 1 200. Donc je pense que niveau ça a permis d'asseoir un peu la marque et de se faire connaître. Et puis récemment là sur LinkedIn aussi, ce qui marche bien en fait, c'est vraiment de vraiment raconter l'histoire. Et sur un post, on a fait 10 000 vues sur un tracteur.
Ah oui, je t'avais envoyé un message en disant, tu vois, les femmes sur les tracteurs, ça marche.
C'est vrai, c'est pas faux. Après, voilà, honnêtement, faut aussi le savoir dans mon histoire, c'est que je suis pas... Si, quand j'étais petite, j'allais beaucoup à la ferme, j'étais beaucoup avec mon papa, mais je le mentionne aussi sur ce poste, je suis pas la grande fan d'agriculture, loin de là, je suis plus derrière mes dessins, derrière mon ordi, ou quand j'allais à la ferme, c'était plus pour jouer avec mes petits frères et mes petites sœurs, mais n'empêche que je garde quand même des super souvenirs de tout ça, et j'y suis attachée, en tout cas, ça me fait du bien quand j'y retourne. Et puis voilà, ce que j'ai envie de dire de ça, c'est que c'est important aussi de valoriser des métiers des fois qui ont été dévalorisés.
Pour moi, ils en pensent quoi de tout ça? Moi, je trouve que tout ce qui est univers, la ferme, la campagne et tout, moi, je viens aussi de cet endroit. Mes parents ne sont pas agriculteurs, mais il y a énormément d'agriculteurs où je vis. J'ai l'impression que c'est très familial, tu vois, que ça se transmet.
Tu veux dire l'agriculture ou l'état d'esprit?
Non, l'agriculture, pour eux, vous prendrez la relève ou ils voulaient vous laisser faire ce que vous souhaitiez.
Alors pas du tout, enfin je pense qu'on a sur ce point-là en fait, je suis l'aînée de plein de cousins. Mes frères, mon père du coup est seul, après il a ses deux frères en GAEC. Et en fait ils ont toujours eu cette démarche de séparer leur travail avec leur famille. Et ils nous ont jamais mis en pression comme quoi on allait reprendre la ferme. Mais ils savent toujours pas qui va reprendre d'ailleurs, parce qu'on est quand même pas mal de cousins et pour l'instant il n'y en a pas un en particulier qui est plus axé agriculture. Non, ils ne s'inquiètent pas de ça, et puis ils ne nous ont jamais poussé à ça. Après voilà, ils nous ont toujours appris à aller vers nos rêves, et de tous nos cousins, pour l'instant, il n'y a personne qui est dans l'agriculture pure. Quoi.
Et voilà, c'est pas, vous n'êtes pas poussé depuis petit à vous dire tu vas reprendre la ferme familiale, etc. Parce que voilà, moi, je connais plein de personnes qui ont des fermes, et les enfants qui ont mon âge, bientôt 30 ans, ils sont déjà dedans depuis l'âge de 18 ans, et ils savent que c'est eux, tu vois, c'est ancré, etc. Comme si c'était déterminant au début, c'est ça que je me dis, est-ce que c'est pareil chez toi ou pas?
Non, vraiment, vraiment pas du tout. Ils nous ont toujours allé, enfin, déjà, ils m'ont poussé à, enfin, l'art appliqué, alors que c'était un domaine qu'ils connaissaient pas du tout, et au final, ils les regrettent pas, mais je me suis toujours battue aussi pour aller au bout de mes rêves. C'est déjà super qu'ils m'aient permis de faire ça, qu'ils m'aient permis de faire ce que je voulais. Donc, j'ai surtout pas. Je pense qu'au fond de moi aussi, j'ai pas envie de les décevoir, et si j'en suis là, c'est aussi grâce à eux. Faut savoir que là, actuellement, en tant qu'entrepreneur, d'ailleurs, je suis revenue chez mes parents pendant le confinement. Donc non, je pense qu'ils déjà, ils sont assez fiers de nous et ils m'ont jamais poussé à aller vers l'agriculture, et c'est pas leur choix en fait.
Au niveau de l'entrepreneuriat, t'es soutenue par ta famille?
Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bah déjà, oui, je suis soutenue parce qu'au final, là, je reviens chez eux, donc ça veut dire qu'ils acceptent aussi mon projet. Ils savent que je bosse pour. Et puis, ça aide aussi parce qu'au final, mon père est, en quelque sorte, moi, je pense que je considère plus mon père comme c'est un entrepreneur. Avant tout, je pense que maintenant, avoir une ferme, c'est pas simplement avoir une ferme, c'est avant tout avoir aussi des bonnes connaissances. Et on le voit de toute façon actuellement, c'est aussi avoir des bonnes questions entrepreneuriales et pas être simplement sur son tracteur comme certains le pensent ou nourrir ses animaux. Il y a les deux, mais je pense qu'il faut avoir quand même cette démarche entrepreneuriale. C'est une question, oui. Tu peux aller jusqu'au produit, aller jusqu'à la vente, etc. Et au final, tu restes plus en tant que petite ferme, ou soit t'es une entreprise et après tu revends derrière pour la grande distribution. Mais ça dépend. Je ne suis pas assez calée pour parler de tout ça. Je pense qu'il faudrait plus en parler avec des pros, et je préfère pas dire de bêtises sur le podcast d'ailleurs. Mais je pense que oui, ça dépend.
Et par rapport à ce projet, tu as eu des difficultés?
Oui, j'ai eu des difficultés et j'en aurai encore. Et je pense qu'il y a une phrase que j'ai retenue, c'est un entrepreneur qui réussit, c'est le nombre de problèmes que tu es prêt à gérer. Et je pense que c'est tellement vrai. Je pense que c'est tellement ça. En fait, en tant qu'entrepreneur, je pense que quand tu commences à avoir des employés ou des personnes, c'est que tu as une vision. T'as une vision des choses et que les personnes te suivent pour. Mais ça veut dire qu'aussi, tu dois gérer de plus en plus de problèmes parce que qui c'est qu'on vient voir quand il y a un souci, c'est toi. Donc, je pense que plus tu as de soucis, plus tu es un entrepreneur de soucis, c'est la façon de dire, mais plus tu as de problèmes à gérer, plus ça veut dire que tu grandis aussi dans l'entrepreneuriat. Et que petit à petit, des problèmes qui te paraissaient super grands au départ vont te paraître mais complètement dérisoires.
Et on va dire que... Est-ce que tes t-shirts ont été un peu un échec pour toi ou un tremplin pour Atelier Verdet?
Alors, ça, c'est une bonne question. Mais en fait, je pense que même dans la notion d'échec, fait, je sais. En fait, ça dépend. C'est ça, c'est une bonne question aussi. Mais qu'est-ce que l'échec? Parce qu'en fait, il y a des échecs qui vont paraître des échecs pour certaines personnes et qui. Là, tu vois ce que tu me dis, moi, ça me paraît pas du tout un échec. En fait, je l'ai vraiment vu comme j'ai fait mes t-shirts, mais c'est pas grave. Au contraire, j'ai trouvé là, juste une autre personne qui a envie de développer des t-shirts et je vais développer avec lui aussi. Une autre marque, du coup. Parce que moi, ça va pas être mon cœur d'activité. Mais ce que je veux dire, c'est que non, je pense que j'ai du mal à voir les choses comme des échecs. Il y a certains. Moi, je pense que pour moi, un échec, ça serait par exemple de planter ma boîte. Mais tant que ça roule, tant que j'avance, même si j'ai des galères et tout, bah pour moi, il n'y a pas d'échec. C'est ça aussi, la définition d'échec, elle est. Enfin, ça dépend comment tu vois l'échec. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à. Ouais, je pense que j'étais tellement habituée avec tous mes projets et tout, même en art appliqué et tout, à avoir des échecs, on va dire. Par exemple, des trucs, ça plaît pas, faut recommencer, faut refaire. J'ai tellement fait ça longtemps que maintenant, ma résistance à l'échec, elle est plus haute. Et je crois que j'ai une vision où, bah, même si je me plante, je recommence. Et je pense que mon associé m'a pas mal aidé là-dessus parce qu'il a la même vision. Il s'est beaucoup planté aussi. Et là, ça marche très bien aussi pour lui au niveau de sa société. Et je pense qu'on a aussi cette vision tous les deux où de se dire, bah, si on se plante, on se plante, on recommencera. C'est pas grave. Mais bon, c'est quand même. Je pense que mon échec à moi, ça serait de planter la société. Ça, j'aurais du mal à l'accepter.
C'est quoi tes objectifs pour le court terme ou le moyen terme par rapport à ta société? Pour dire, c'est bon. Quand est-ce que tu te diras, c'est bon, je suis dans les clous?
Quand j'arriverai à. Quand est-ce que je suis dans les clous? Bah, on peut parler en objectif financier ou.
C'est à toi de me dire.
Je sais pas.
Nombre de sacs vendus, je sais pas.
Ouais, moi, je pense que je me dirais que je suis dans les clous quand déjà, enfin, je serais plus sereine quand je me dirais que j'aurais une entreprise qui soit, voilà, qui tourne et je me dis, bon, bah là, ça va. Après, on peut jamais avoir ça complètement, mais je pense que je serais plus sereine quand j'aurais au moins 200 000 euros de chiffre d'affaires, au moins. Ça, je serais plus sereine. Parce que, attention, parce que pareil, il faut faire attention aussi dans le chiffre d'affaires, quand c'est de la prestation ou quand c'est du produit, c'est pas la même chose. Donc, quand j'aurai 200 000 euros de chiffre d'affaires en produit, là, je serais déjà satisfaite.
Il faut que tu vends combien de sacs?
Alors, j'ai pas. Sur le 200 000 euros de chiffre d'affaires, il faut vendre quand même pas mal de sacs. Au moins 500, il me semble. Bah, c'est facile à faire. On fait 210 fois. Ouais, c'est ça à peu près. Je sais pas exactement, mais oui, c'est à peu près ça. 500 sacs, ça serait pas mal.
C'est faisable, en une année?
En une année? Je me suis pas fixé 500 sacs cette année quand même. Regardez, je le vois vraiment sur du long terme. Cette année, je me suis, vu qu'on en lance moins, etc., en nombre de sacs, je me suis fixé 200 sacs. J'espère plus.
Ça fera déjà la moitié d'un objectif à l'année, tu vois.
C'est vrai.
Ce qui est pas mal. Et tu penses que t'es dedans, là? Une année à toi qui compte janvier ou qui compte la création de ta boîte?
Là, je pense que pour 200 sacs, je suis encore dedans, je pense. C'est un bel objectif. 200 sacs, ça serait vraiment super cette année parce que mon bilan comptable s'arrête en août. Donc, ça fait jusqu'où?
Voilà, ça, j'allais dire, c'est quand? Ouais. De août en août?
Non, c'est de septembre à. C'est une année complète. Mais vu qu'on a la création de société, qu'on a commencé en septembre, qu'on a fait la campagne en novembre, tout ça, bah, forcément, ça me permet un peu de chiffres sur l'année, on va dire. Enfin, si c'était une vraie année comptable. Attends, je me calcule parce que je voulais calculer 210 au lieu de dire des bêtises. Fois 500. Ouais, non, même pas, hein, tu vois. Genre 210 fois 500 égale, ça fait que 105 000 de chiffres.
Il faut que t'en vendes 1000.
Ouais, il faut que j'en vende 1000.
J'ai un peu cassé les rêves de 500. Bon, faut que tu doubles le prix alors, voilà.
C'est bon. Non, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur mes objectifs de l'année, pour l'instant, et c'est ça, je fais aussi du style freelance. Donc en fait, pour moi, ça va faire crescendo et l'objectif de faire 1000 ventes de sacs ou 500 sacs, ça serait sur les 2 ans, à moins qu'on cartonne et qu'on explose, mais 2-3 ans. Quoi.
Ah oui, voilà. Non, mais c'est largement faisable. Hein. Enfin, à mes yeux, tout est faisable. Je remarque qu'il y a plein de projets super bien dans ta vibe, que ce soit là-haut, avec qui tu as fait un concours.
Oui, oui, oui.
Il y a aussi, je ne sais plus comment il s'appelle... Dans le Nord, il y a un jeune homme qui prend des chambrières de vélo pour faire des ceintures ou quelque chose comme ça.
Il y a La Vie est Belle.
La Vie, voilà, c'est ça. Lui, il est fort. Même, il a fait des caleçons avec des draps et tout.
Ouais, il est très fort encore.
Mais c'est fou d'avoir des idées aussi incroyables. Moi, je vous admire parce que je suis créativement pas inspirée. C'est assez dingue. Et je sais que ACOB, voilà, que j'avais aussi fait Étienne, Déco Bouteille. Lui, il adore La Vie est Belle. Genre, il en est complètement fan et il aimerait bien le rencontrer. Il y en a une grosse nouvelle génération d'entrepreneurs qui a envie d'utiliser les matières existantes pour faire quelque chose de mieux, en fait, et de changer un peu l'état d'esprit des gens.
Exactement. Totalement d'accord. C'est top.
Être une femme entrepreneur, comment ça se passe pour toi?
Oula, gros sujet. gros sujet. Écoute, oui. Non, ça me pose pas trop de soucis. Après, j'ai l'avantage, hein, je sais, d'être avec aussi mon associé Clément. Mais d'un côté, non, moi, ça me pose pas de soucis. Hein. Après, je dis ça, mais peut-être que je vais le verrai dans 1 ou 2 ans quand il faudra que je fasse ci ou je fasse ci. Mais pour l'instant, ça m'a pas trop posé de soucis. En tout cas.
Bah, tant mieux, hein, parce qu'il y a personne où c'est dur. Donc, tant que ça ne te touche pas, c'est le principal. Ça ne met pas de bâton dans les roues, ça te décourage pas, en fait.
Non, après je sais pas comment ça te décourage, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi, ça dépend de la posture, comment tu te places. Donc je pense que, après le premier rendez-vous qu'on avait fait par exemple pour les t-shirts, on était tous les deux avec Clément, donc je pense que c'est rassurant aussi de voir qu'il y a 2 personnes derrière un projet. Je pense que si j'avais tout fait toute seule au début, peut-être que ça aurait été plus dur des fois sur certains points, mais non, même sans ça, après c'est moi qui j'ai beaucoup été toute seule pour faire des rendez-vous, pour prendre des contacts, et en fait quand tu as confiance en ton projet, quand tu as confiance en toi, les personnes, en fait, elles voient même pas que... elles te posent même pas de questions. Par exemple, les questions du type, moi, j'avais pas ma société quand j'ai fait toutes les démarches. On m'a jamais... au début, quand j'avais pas confiance en moi, on me l'a fait. Mais après, une fois que j'avais confiance en moi et qu'on voyait que je savais faire et que je démarchais comme si j'étais une entreprise, bah, on m'a jamais posé de questions sur, par exemple, votre numéro de Sirette, votre numéro de machin. Après, ça dépend aussi des fournisseurs qu'on prend. Je pense, mais on m'a jamais embêté sur ces points-là, dans le sens où on n'avait pas confiance parce que j'étais une femme ou parce que j'étais en création de projet. Parce que je savais ce que je voulais et que j'avais aussi peut-être les connaissances en mode qui rassuraient aussi les fournisseurs en se disant bon, bah, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, donc on se pose pas de soucis, on lui laisse quoi.
Ouais, en fait, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient problème avec la banque. Carrément, les femmes entrepreneurs qui voulaient faire des prêts dans des banques, je sais plus ce que c'était. Le projet, mais on lui a dit clairement, venez avec un homme pour avoir le prêt.
Bah, c'est une grande question. Je vais à la banque là dans peu de temps. Ça, je sais pas. Des soucis. Peut-être que oui, les banques vont.
Tout ça grave, surtout si c'est un projet trop masculin. C'est tout ça. Et c'est fou, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Oui, il y a une certaine discrimination, même moi, ouais, par rapport à des projets, en fait, où on dit aux femmes, allez prendre votre place où il y a des choses créées pour les femmes et n'allez pas sur les terrains des hommes parce que c'est compliqué. Genre, il y a une discrimination dans les startups où beaucoup moins de femmes lèvent d'argent et elles lèvent 2 fois moins d'argent que les hommes.
Ça, c'est possible, par contre. Ça, je pense que c'est possible. Après, je pense que ça me touche pas trop parce qu'on est 2. Après, peut-être que si, je m'en rendrai compte. Et ça, je pense que si ça me vient dessus, je pense que c'est quelque chose que je ne laisserai pas passer.
Ah, mais il ne faut pas.
J'aurais dû très beaucoup de mal, en fait.
J'aimerais savoir quel est ton plus grand défaut.
Oula, mon plus grand défaut, ça serait d'avoir le cerveau qui part dans tous les... Enfin, pas qui part dans tous les sens, mais c'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Et en fait, on me dit souvent qu'il faut me canaliser. J'y arrive de plus en plus. Donc c'est un défaut et une qualité, parce que c'est aussi ça qui fait que je suis assez rapide dans ce que je fais et ce qui fait que j'ai beaucoup d'idées et tout. Par contre, ça peut être un défaut aussi, parce que bah, déjà j'ai du mal à m'arrêter. Et de deux, des fois ça peut être... au début en tout cas, maintenant je pense que l'entrepreneuriat m'aide justement à m'organiser. Mais au niveau organisation, des fois ça pouvait être compliqué parce que bah, faut gérer plein de choses. D'un côté, ça permet d'être réactive et de gérer plein de choses à la fois. Mais d'un côté, des fois, ça permet aussi... On peut me dire, on m'a toujours dit au tout début, quand j'avais 16 ans, que je partais un peu dans tous les sens parfois. On me le dit beaucoup moins et on ne me l'a jamais reproché dans mon travail. Parce qu'en fait, dans mon travail, il est toujours... Surtout dans la création, je suis assez exigeante avec moi-même. On ne m'a jamais reproché, on ne l'a jamais vu. Mais c'est plus moi sur... où on m'a dit, mais comment tu fais? Parce que tu dois t'épuiser, en fait. Mais je travaille là-dessus et je pense que c'est un atout, en fait. Je pense que c'est aussi ça qui fait ma force. Et mon associé est exactement pareil. Donc,
Ah, ça doit être dur à gérer les deux, non?
De quoi? D'avoir les idées qui partent dans tous les sens et, oui et non, parce que lui est plus posé, ça fait déjà 3-4 ans qu'il fait l'entrepreneuriat et il a l'impression de se voir en moi parfois. C'est-à-dire que il se voit lui il y a 2 ans en arrière, en fait. Donc ça le fait beaucoup rire. Mais je pense que non, c'est un avantage. C'est ce qui fait notre particularité en fait, c'est qu'on est très si on s'est trouvé, c'est pas pour rien, c'est qu'on a toujours des idées, pas tout le temps, on s'arrête pas quoi, on a du mal à s'arrêter.
Vous êtes un peu similaire, on va dire.
C'est ça, similaire mais complémentaire.
Et qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte?
Dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je déteste faire?
Ouais, est-ce qu'il y a un truc que t'as horreur et tu te dis, ah ouais, si je pouvais ne pas le faire, je ne ferais pas? Ça se trouve, t'aimes tout.
Les chiffres.
Bien les chiffres, pourquoi t'aimes pas les chiffres?
C'est
quoi que t'aimes pas dans les chiffres?
D'un côté, j'aime pas, si, parce que je dis ça, mais je les gère quand même, j'ai pas le choix. Mais tout ce qui est... On remarque, je m'améliore quand même, je finis par y arriver, mais c'est plus, ouais, gérer... Je fais de la gestion. En fait, c'est la gestion qui m'embête.
Gestion d'entreprise? Tout ce qui touche à la compta,
ouais, ne pas gestion finalement, ouais, c'est ça, compta, etc. Donc, ouais, c'est plus ça ma bête noire actuellement, et encore que je finis par le faire. Donc, bah, faut quand même envoyer les factures, faut quand même, c'est quand même moi qui ai monté le prévisionnel, c'est quand même moi qui ai les notions de chiffres, parce qu'au final, c'est quand même moi qui gère tous les fournisseurs, donc c'est moi qui ai les chiffres en main et qui fait les factures, les devis, et patati patata. Donc, je suis quand même dedans. C'est pas que j'aime pas les chiffres, mais c'est que ouais, je suis quand même créative. D'un côté, j'aime quand même les chiffres parce que j'étais pas mauvaise en maths et tout, mais je préfère créer et pas me poser de questions que plutôt me poser des questions s'il y a assez de par exemple de trésor, s'il y a assez de ci, assez de ça. Ça, c'est pas mes... Je préfère créer que gérer ça. Par contre, je sais que c'est très important et que c'est des choses que je dois mettre en place. On va dire ça comme ça.
C'est super chronophage. Franchement, c'est chiant. Ça te passionne pas et c'est pas quelque chose qui est au cœur de ton métier, que c'est pas une passion et les chiffres, ben c'est chronophage, surtout quand t'as envie de créer, d'aller dehors, de rencontrer du monde, de prendre des choses pour être dans ton atelier, etc. T'es là devant tes chiffres. Moi qui adore ça, je me dis, mais quelqu'un qui est hyper créatif doit s'ennuyer à mourir devant un tableau Excel.
C'est ça, exactement.
Ça casse un peu la créativité.
C'est ça.
Écoute, t'aimes bien parce que tu dois aimer.
J'ai pas le choix.
Mais je te souhaite un jour de pouvoir avoir des personnes qui aiment ça et qui font que ça, et toi, tu restes dans ton atelier à créer, quoi.
C'est ça. C'est ça qui serait l'idéal.
Est-ce que t'as une anecdote honteuse à nous partager?
Oula, l'anecdote honteuse. En rendez-vous client, un ongle qui... un ongle qui part. Je pense que c'est important. J'avais mis des faux ongles parce que j'ai du mal avec mes ongles. Et en fait, il y en a un qui est parti. Du coup, voilà, c'était un peu drôle. Ça m'a fait rire.
Est-ce que c'était un client que tu connaissais déjà ou c'était un nouveau?
Non, c'était un client que je connaissais déjà.
Alors ça va, peut en rire. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
Le meilleur conseil qu'on m'a donné? Oula. C'est pas le... Ouais, non, je ne le dirai pas celle-ci. Qu'est-ce qu'on le premier conseil qu'on m'a donné? D'être moi-même, ça on me l'a donné aussi. Ah, j'ai pas le en tête, je pense qu'il faudrait que j'y réfléchisse parce qu'on m'en a donné plusieurs. En tout cas, il y a une phrase, et ça c'est le conseil que mon père m'a toujours donné, et je pense que celle-ci, elle rythme beaucoup de choses dans ma vie, c'est on récolte toujours ce qu'on sème. Et ça c'est tellement vrai, c'est tellement ça en fait. Il faut continuer de semer des graines, et au final, au fur et à mesure, bah, tes rencontres, tes échanges, tu finis par... par récolter ce que tu as semé avant. Donc ça, je pense que c'est une très belle phrase à retenir pour tout le monde. Peu importe que tu sois dans l'entrepreneuriat ou pas, on récolte toujours ce qu'on sème. Ça, c'est vrai.
Ben, merci à toi d'avoir répondu à toutes mes questions.
Merci à toi surtout de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir parler dans ton podcast. C'est super.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.